16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, nous voilà à nouveau réunis pour deux heures d'histoire nappées d'une généreuse couche de bonne humeur grâce notamment à la bonhomie légendaire de l'animateur préféré des Français, directeur d'une mission sur le patrimoine, présentateur de l'Eurovision, des Victoires de la Musique et vice-champion du Luxembourg de karaoké 2008 sur Britney Spears.
I lose my mind.
Give me a sign.
Hit me baby one more time.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver pour Historiquement Vôtre chaque après-midi. Trois portraits de personnages très différents, mais ayant un point en commun. Aujourd'hui, trois femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique. Et en plus, je vais vous dire, ça s'est vu.
Oh, vous n'êtes pas élégant.
Bah, sinon, il n'y aurait pas d'émission.
C'est vrai.
Oui. On commencera avec votre arrière-grand-mère, Mathieu, Suzanne Noël.
Suzanne.
Oui, une pionnière de la chirurgie esthétique, mais pas comme vous l'imaginez. Non. Oui, médecin pendant la Première Guerre mondiale, elle a réparé les visages, les gueules cassées dans les tranchées. Puis je vous raconterai un autre destin, celui de Marilyn Monroe.
Quel rapport avec la
chirurgie
esthétique ?
Un physique avantageux pour la star, l'icône d'Hollywood. Eh bien, on le sait peu, mais elle a eu recours à la chirurgie esthétique.
Tout s'effondre. Oui.
Non, justement. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une femme encore parmi nous. Elle a plus de 80 ans et un sacré surnom, la femme chat.
Oui, Stéphane, et ce n'est pas parce qu'elle est souple ou qu'elle voit dans le noir. Jocelyn Wildenstein est une sorte de record woman des opérations esthétiques. Et autant parfois ça me dessert, car je ne peux pas vous montrer ce dont je parle, autant aujourd'hui nos auditeurs ont de la chance que nous fassions de la radio. Imaginez quelqu'un qui a déjà fait beaucoup trop de chirurgie esthétique.
Rachida Dati.
Voilà, et bien vous imaginez quelqu'un qui en aurait fait 100 fois plus, Stéphane, et vous obtenez la Wildenstein.
Oui, on dit la Wildenstein comme c'était une œuvre d'ailleurs.
Oui, tellement. Carrément, elle est devenue une œuvre vivante.
Oui. Oui. Alors eux, Mathieu, ils sont, enfin je crois, 100% naturels.
Oui, mais ça se voit aussi du coup.
Oui, avec nous comme chaque jour, Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde.
Oui, et en ce qui me concerne, à Dieu ne plaise que je fréquentasse un jour un bistouri, donc je n'étant pas concerné du tout par la chirurgie esthétique, eh bien j'ai choisi d'évoquer un anniversaire, car il y a 190 ans, le 18 février 1831, se mariait Pushkin, l'immense poète russe. Vous savez, Pushkin, c'était un très grand séducteur. Il comptait ses conquêtes amoureuses, comme le faisait Don Juan. Il en avait compté 113. Hein. Vous pouvez vous aligner, messieurs.
Mais en 13 couchés ou juste embrassés ?
Plus que ça.
Attends, je compte.
Je ne sais pas. Vous avez, en tout cas, prenez vos responsabilités. Lui, en 1827, à 28 ans, il tombe fou amoureux de Natalia Goncharova, une jeune fille de 15 ans d'une grande beauté. Et c'est pour elle qu'il prendra part à un duel mortel que je m'en vais vous raconter.
Il n'y avait pas la question du consentement à l'époque. Hein. 28 ans, 15 ans, ça choquait personne.
Oh non, écoutez, dans les années 1800, on peut se marier avec une jeune fille, se marier à 15 ans.
Aucun problème. David Castello-Lopez est avec nous également aujourd'hui pour remonter aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui nous est chère.
Et oui, tout à fait, les jeux de mots. Hein. Vous savez que moi, à un moment, j'ai eu une petite période d'embonpoint quand j'avais 11 ans. Et je m'appelle David Castello-Lopez et on m'appelait David Castello-Lobez.
Voilà. Ça vous a traumatisé.
Et donc maintenant, j'ai décidé de revenir aux origines de ça, des gens qui font ça.
Aujourd'hui, vous êtes vraiment mince comme un clou, on peut le dire.
Hein. Oui.
Vous êtes très très mince. Mais attention, avec un peu de ketchup, vous pourriez retrouver vos formes de jadis. Et Olivier Pouls nous parle effectivement du ketchup aujourd'hui. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour. J'imagine que dans vos frigos respectifs, vous en avez bien un petit tube. Ça peut toujours servir. Mais moi, je vais surtout vous apprendre à le faire maison. Vous allez voir, c'est meilleur et ça contient beaucoup moins de saloperies que ceux qu'on vous vend industriellement.
Stéphane, vous êtes plutôt ketchup ou mayo ?
Je suis moutarde, moi.
La troisième voie.
Ouais, quoi.
Vous êtes le Tony Blair des condiments. Nous jouerons à ce jeu si amusant qu'il peut faire péter les meilleurs liftings. Vous savez, Burn to be Alive. Qui de Clémentine ou de Portier-Kaltenbach l'emportera ? C'est, je vous le rappelle, la grande question à laquelle nous répondons chaque jour vers 5h-10, vu que la dernière victoire de Stéphane remonte au concile de Nicée. Mais tout de suite, les amis, découvrons la pionnière de la chirurgie esthétique, ma mamie. Stéphane nous raconte le destin de Suzanne Noël.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous voilà dans un bel appartement bourgeois du Paris 1900. Monsieur et Madame Perta y ont élu domicile il y a peu. Lui s'appelle Henri, il est médecin spécialisé en dermatologie et commence à se faire une petite réputation dans le milieu médical. Elle, c'est Suzanne. Et Suzanne, elle s'ennuie. Débarquée de sa province natale pour épouser un bon parti, elle a vite déchanté. Henri a beau être un gentil mari, la vie domestique ne plaît guère à sa femme.
Alors oui, Paris a plein de belles choses à offrir, comme les galeries d'art, où Suzanne passe des heures à admirer les peintures impressionnistes, l'opéra aussi, où l'on aperçoit souvent le couple Perta, mais pour le reste, quel ennui. Les interminables parties de bridge auxquelles Suzanne participe ne font que la déprimer. Elle est entourée de femmes d'eux qui radotent à propos de leur marivolage ou de leur bel intérieur. Et je ne vous parle même pas de la ritournelle sur leurs enfants merveilleux. Or, pour Suzanne Perta, cette villa, non merci. Non, voyez-vous, Suzanne a d'autres ambitions. Elle veut revêtir une blouse blanche pour seconder son mari au cabinet médical. Mais pour cela, il lui faut passer le baccalauréat. Alors qu'à cela ne tienne, Suzanne retrousse illico ses manches de dentelle, elle s'abreuve d'équations mathématiques et de traités philosophiques, et ce qui lui semblait difficile n'est finalement qu'une simple formalité. Alors, après avoir obtenu son diplôme haut la main, Suzanne n'en reste pas là. On la retrouve sur les bancs de la faculté de médecine, la voilà toisée de haut en bas par ses confrères moustachus. Certains se demandent bien ce que des jupons féminins viennent faire là, mais Suzanne Perta est brillante et parvient sans mal à s'imposer au milieu de toute cette testostérone. Elle travaille avec acharnement, si bien qu'à l'aube, il n'est pas rare qu'Henri retrouve sa femme endormie sur le divan au milieu de ses manuels d'anatomie. Très vite, le squelette humain et ses 200 ciseaux n'ont plus aucun secret pour elle. Il n'y a pas de doute, Suzanne a bel et bien trouvé sa vocation, loin, très loin des casseroles et des chiffons. Mais notons que l'éducation qu'elle a reçue a tout de même servi à quelque chose. Et oui, les jeunes filles de bonne famille apprennent très vite à manier l'aiguille et les ciseaux. Sauf que Suzanne, plutôt que de rafistoler les chemises de son bien-aimé, suturera des plaies béantes. Il faut dire que pendant son externat à l'hôpital, notre héroïne a eu une révélation. Elle a vu le docteur Hippolyte Morestin réparer la joue d'une petite fille. La pauvre enfant avait été défigurée par une brûlure. Elle n'en finissait plus de subir les brimades de ses camarades qui criaient au monstre. Alors, quand Suzanne Perta réalise que des mains expertes ont le pouvoir de remodeler l'apparence, elle n'a plus de doute. Ses doigts serviront à raccommoder les patients pour leur redonner confiance en eux. À 34 ans, Suzanne est reçue quatrième au concours de l'internat. Toc ! Un pied de nez à tous ces bonhommes qui doutaient qu'une femme puisse exceller ailleurs qu'en cuisine. Je vous le disais, Suzanne Perta est brillante. À la même période, on la retrouve qui piétine les pavés de son nouveau quartier. Il y avait de l'eau dans le gaz chez les Perta, alors madame a quitté le domicile conjugal pour s'installer à Montmartre. Et ce matin, surprise, dans le kiosque du quartier, tous les journaux affichent la même une. En gros caractère, dans le petit journal, Suzanne lit que l'immense Sarah Bernard affiche une nouvelle jeunesse depuis son retour des États-Unis d'Amérique. La plus célèbre des comédiennes serait passée entre les mains savantes d'un médecin sulfureux. En deux coups de bistouri, Sarah Bernard aurait perdu plusieurs décennies. Un des tout premiers liftings de l'histoire, en somme. Curieuse d'en apprendre un peu plus sur cette technique innovante, Suzanne s'empresse de frapper à la porte de la star. Mais c'est bien une demoiselle de près de 70 ans qui la reçoit ce jour-là. Le chirurgien new-yorkais est parvenu à atténuer les rides du front, mais sur le reste du visage, les stigmates du temps demeurent. Ni une ni deux, Suzanne propose à Sarah Bernard de finir le boulot. Grâce à un habile travail de couture chirurgicale, elle retend la peau de la comédienne. Pas mal comme référence sur le CV d'une novice. Mais bientôt, les mains de Suzanne s'appliqueront à soigner des visages dans des circonstances ô combien plus dramatiques. Nous sommes en 1914. En déclarant la guerre à la France, l'Allemagne a signé l'arrêt de mort de milliers de soldats. Dans les tranchées, la bataille fait rage et laisse un grand nombre de poilus atrocement mutilés. Et dans les hôpitaux, c'est un affreux spectacle. Des visages déchiquetés par des éclats d'obus, des joues en lambeaux. Suzanne Perta est mobilisée à l'hôpital du Val-de-Grâce. Dans ce qu'on appelle le service des baveux, elle manie le scalpel aux côtés de son mentor, le docteur Morestin. Le duo fait des prouesses en matière de greffe. Leur unique objectif, utiliser leurs connaissances en matière de chirurgie réparatrice pour redonner un visage, un sourire et une dignité à toutes ces gueules cassées. En 1918, on signe enfin le traité de paix. Mais alors que la France respire à nouveau, les choses se compliquent pour Suzanne Perta. De malheureux contretemps viennent jalonner un parcours jusque-là sans embûches. J'imagine que vous vous demandez depuis le début de mon récit pourquoi je parle de Suzanne Perta alors que j'annonçais Suzanne Noël.
Je me le demande, Stéphane.
Oui. Eh bien, tout simplement parce que notre héroïne est une femme libre. Pendant ses études, elle a rencontré André Noël, un médecin en devenir lui aussi. Et ce monsieur est devenu son amant. D'ailleurs, quand Suzanne accouche d'une petite fille en 1908, elle ne sait pas trop qui d'Henri ou d'André en est le père. Toujours est-il que lorsque son mari décède, après une malencontreuse intoxication au gaz moutarde, Suzanne épouse son amant et devient donc officiellement Madame Suzanne ou André Noël, comme
les
vous préférez.
Les choses sont plus claires.
Surtout, ça reste votre grand-mère.
Toujours.
Mais à veuvage, un changement d'état civil, une petite fille à charge et les ravages de la grippe espagnole par-dessus le marché, cela fait beaucoup de charges mentales pour Suzanne. Alors, elle ne passe pas sa thèse de médecine avant ses 47 ans. Avant cela, elle exerce longtemps sous la licence de son second mari. Et dans leur appartement cossu de la rue Marbeuf, le couple Noël envoie défiler des patients. Notre pionnière de la chirurgie esthétique reçoit des femmes qui ont entendu parler de ces techniques venues d'outre-Atlantique. Ces dames rêvent de retrouver leur éclat d'antan en effaçant ces pas de doigts qui trahissent leur âge. Alors, dès qu'elles entrent dans le cabinet, Suzanne les met face au miroir. Elle dégaine aussitôt ses pinces pour tirer la peau des patientes et susciter leur enthousiasme. C'est une véritable cure de jouvence. En plus de cela, la cicatrice est très discrète. On vient se faire opérer à 6h du soir pour un dîner à 8. Résultat garanti. Ce sont des femmes fortes et confiantes qui sortent du cabinet. Et le docteur Noël donne toujours le même conseil. Ne dites rien à votre époux. Jusqu'à la fin de sa vie, le docteur Suzanne Noël répare des visages et remodèle des corps meurtris. Dès 1940, alors que la France collabore avec l'ennemi, elle choisit le camp de la résistance. Elle n'hésite pas à opérer des résistants recherchés par la Gestapo afin de modifier leur apparence. À la fin du conflit, alors que le monde découvre l'horreur des camps, le docteur Noël efface les terribles matricules gravées dans la peau des survivants. Voilà donc qui était le docteur Suzanne Noël. Une femme libre et déterminée, une femme médecin prête à tout, pour qu'en toutes circonstances, ses patients ne subissent jamais le regard dévalorisant d'autrui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Suzanne Noël, nous avons le plaisir de recevoir en studio le dessinateur Clément Oubrerie qui co-signe une BD qui lui est entièrement consacrée, donc à Suzanne Noël. Bonjour Clément, merci d'être avec nous.
Bonjour Clément Oubrerie, vous redonnez vie en quelque sorte à Suzanne Noël de la plus belle des manières dans une BD à main nue, publiée comme le dit Mathieu aux éditions des Arènes. Une BD que vous avez réalisée avec l'écrivaine Leïla Slimani. Comment vous êtes venu à Suzanne Noël? C'est vous, c'est Leïla Slimani en premier? Comment c'est venu le sujet?
Alors, c'est Leïla qui a amené ce sujet. Avec elle, le terme roman graphique prend tout son sens parce qu'elle a vraiment l'art du récit. Donc, c'est une chance de pouvoir travailler avec elle. Et elle a aussi l'art de choisir des sujets assez controversés, un petit peu polémiques, un petit peu sulfureux. Et c'est vrai que la chirurgie esthétique fait partie de ces sujets. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'était très intéressant cette collaboration. Mais c'est vraiment elle qui a dégoté ce personnage que je ne connaissais pas du tout, je l'avoue.
Alors, si vous voulez d'ailleurs, j'en profite parce que moi j'ai rencontré Suzanne Noël, si je puis dire, au Val-de-Grâce. Et au Val-de-Grâce, il y a notamment un musée, là, avec les visages des gueules cassées. Parce qu'évidemment, tout ça, quand elle réparait, on faisait des moulages, oui, etc. Oui, oui. Et donc, on peut voir tout ça au Val-de-Grâce. Dès que ça rouvrira, je vous invite à aller voir le musée, parce qu'on voit tout le travail de Suzanne Noël. Elle a eu un rôle clé dans l'histoire de la chirurgie, dans celle du féminisme, mais étrangement et paradoxalement même, elle est inconnue du grand public. Ça tient à quoi, à votre avis, à la permanence de ces tabous? Est-ce qu'elle soit une femme, peut-être, justement?
Déjà, c'est une pratique un petit peu polémique, puisque même à l'époque, déjà, on considérait que c'était frivole, que c'était superficiel. C'est-à-dire qu'on confondait la chirurgie esthétique dans le mauvais sens du terme.
Oui, c'est chirurgie réparatrice.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, il y a certainement des tabous. Et bon, parmi ces tabous, il y a le fait qu'il y avait très peu de femmes médecins. Et surtout qu'une femme mette la main dans le corps des hommes, je pense que ça posait un problème.
Vous pensez que si ça avait été un homme, Suzanne Noël, elle aurait eu sa place au panthéon de l'histoire des médecins, on aurait peut-être fait des films plus tôt sur elle. C'est vrai que
écoutez, les films vont arriver très certainement.
Les films vont arriver.
Grâce à notre BD.
On a un bon storyboard.
Oui.
Hein.
Ah oui, c'est formidable.
Il y a plusieurs Suzanne que Stéphane nous a raconté successivement. L'étudiante acharnée, l'épouse insoumise, la chirurgienne sur tous les fronts, la féministe aussi. C'est quelle Suzanne qui vous fascine le plus, finalement?
Moi, je trouve que c'est un personnage tragique et très beau. C'est quelqu'un qui quand même traverse tout le XXe siècle, qui connaît deux guerres, qui connaît de multiples drames, et c'est vraiment quelqu'un qui reste droit, qui a quand même des convictions sociales, et qui va toute sa vie se tourner vers les autres, alors qu'elle-même est assez solitaire. Voilà, donc c'est ce contraste-là, ce personnage que je trouve assez touchant et assez beau.
Évidemment, on est séduit par la Suzanne Noël des deux guerres. Pendant la première, elle répare les gueules cassées, c'est la chirurgie réparatrice. Hein. Et c'était un défi d'ailleurs pour vous de représenter visuellement tout ce travail de réparation sur les gueules cassées.
Alors en dessin, c'est très facile d'aller vers l'horreur. Hein. On a vite fait de faire des monstres.
Mais en réalité aussi, on le verra plus tard dans cette émission.
En réalité aussi, mais c'était pas mon intention parce que justement, je trouvais que c'était un petit peu facile et ça pouvait aussi être assez repoussant. Et j'avais aussi envie d'aborder le sujet d'une manière plus artistique, dans le sens où j'ai fait un parallèle entre les visages des gueules cassées et le cubisme, en fait, parce que l'art et la médecine sont liés depuis toujours, puisque c'est les artistes qui, les premiers, ont ouvert le corps humain pour le représenter. Hein. Je pense à Léonard de Vinci, qui, malgré l'interdiction papale, disséquait des cadavres. Et donc, l'anatomie, la chirurgie, tout ça, vient un petit peu du même corps. Mmh. Et donc, ça avait vraiment un sens de représenter cette histoire en bande dessinée. Et également de transposer l'horreur en faisant appel, justement, par exemple, à des tableaux cubistes, à Archimboldo, qui, lui, représente le visage sous forme de fruits, de légumes ou d'animaux. Donc, j'ai joué un petit peu comme ça sur des décalages que je trouvais plus intéressants que de représenter juste des visages déchiquetés.
À main nue, c'est le titre. J'imagine qu'elle opérait pas complètement à main nue quand même, mais il y a ce côté, c'était quand même les balbutiements de la chirurgie réparatrice. Donc j'imagine qu'il y a dû avoir des ratés. On sait si elle était pionnière et on sait si les résultats étaient à la hauteur de ses attentes ou.
Bah, il faut voir que l'on est passé pendant cette guerre du sabre au fusil, hein, du boulet à l'obus. Donc les visages étaient beaucoup plus. Les blessures étaient nouvelles. On n'avait pas vu encore de blessures comme ça. Donc on peut imaginer qu'effectivement, on partait de très très loin et que ça devait être difficile de mais en fait, c'est assez documenté, il y a beaucoup de photos qui sont assez épouvantables, hein, il faut bien le dire, mais on voit quand même les résultats, et les résultats sont vraiment étonnants, parce qu'avec des moyens très très simples, hein, qui consistent à prélever des bouts et à les faire pousser sur le visage, etc., et ils arrivaient quand même à reconstituer des visages.
Et ce qui est fou, c'est que c'est vrai que quand on parle de chirurgie esthétique, on pense toujours voilà, se refaire le nez, se faire tirer la peau, alors que c'est vrai que Suzanne Noël, elle a porté très haut ses valeurs de chirurgie réparatrice. Elle réparait des visages, mais des corps aussi, et en fait ça réparait psychologiquement, psychiquement, socialement les gens.
Exactement. Elle a un rôle social très marqué. Évidemment, elle a des opérations qu'elle se fait payer et d'autres qu'elle fait gratuitement. Donc on a pas mal d'anecdotes comme ça. Et c'est une époque assez patriarcale où les femmes qui travaillent, elles ont souvent des métiers de représentation. Et par exemple, on a un cas qui est raconté dans l'histoire où une femme est trop âgée, donc on veut plus d'elle pour faire l'accueil à l'hôtel. Et donc, Suzanne lui propose de lui arranger ça pour qu'elle retrouve un métier. Donc, c'est pas seulement de la frivolité, il y a aussi effectivement tout un rôle social.
Est-ce qu'elle disait non parfois à certaines propositions d'opération? On sait qu'aujourd'hui, c'est un débat sur les chirurgiens esthétiques qui parfois, pour faire du chiffre, acceptent un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'elle avait une éthique de ce côté-là dans sa pratique?
Du coup, grâce au livre, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des chirurgiens et je suis maintenant qualifié pour répondre à cette question, car sinon, ça ne serait pas le cas. Et oui, bien sûr que la plupart des chirurgiens, dont Suzanne Noël, n'acceptent pas tout. Et parce que souvent aussi c'est juste une image mentale que se fait le patient, et donc généralement il commence par essayer de déblayer pour voir s'il a vraiment besoin qu'on lui refasse quelque chose. Mais c'est vrai que là, il faut voir que la chirurgie esthétique aujourd'hui, c'est aussi des gens qui grèvent des mains, qui grèvent des visages à des brûlés, donc c'est pas seulement des bimbos qui veulent qui veulent se faire arranger. Il y a une chose qui est intéressante qu'un chirurgien m'a dit, c'est que finalement le problème du vieillissement, c'est le problème de la gravité, c'est-à-dire que le visage petit à petit s'affaisse.
Tout s'affaisse.
Donc d'où le lifting qui signifie remonter.
Il faut tout remonter.
Il faut tout remonter. Mais c'est pas la même chose que regonfler.
En fait, vient de se toucher les tétons.
Ça finit par ressembler à des.
Ah oui. Des gants de toilette.
Parce que c'est pas la même chose que regonfler, par exemple en mettant du botox ou des produits comme ça, on gonfle, mais c'est pas du tout le même acte que l'acte du lifting.
Mais dans son livre, La chirurgie esthétique, son rôle social, paru en 1926, Suzanne Noël décrit son métier en ces termes. « Pour ma part, à ce moment précis, je rends grâce à celui ou à celle qui, allongé devant moi avec la plus tranquille confiance, remet entre mes mains la destinée de sa beauté. » Donc, elle a conscience quand même de l'importance de cet acte qui va, dans un cas, peut-être sauver socialement, moralement quelqu'un, et dans l'autre, donner plus de confiance, parce qu'elle raconte que les gens sortaient de son cabinet beaucoup plus confiants qu'ils ne l'étaient en y entrant.
Et cette marque de confiance, c'est très beau, parce que comme disait Moebius, un grand auteur de BD, le dessin et la chirurgie ont un point commun, c'est que la main ne doit pas trembler. Hein. C'est-à-dire que l'acte chirurgical, c'est aussi, bon, c'est pas un acte artistique, c'est un acte réparateur, mais il doit avoir cette précision et on a vite fait de rater son dessin, y compris sur un visage.
Tout est vrai dans la BD, au début l'accident avec l'accident de voiture.
Non, alors il y a toute une part de fiction. Hein, Leïla est romancière, moi je suis dessinateur, donc ce qu'on aime aussi, c'est la liberté. L'histoire de l'accident, on l'a inventée pour raconter justement que Suzanne, elle a cette vision décalée des choses, qu'elle perçoit une beauté dans l'horreur, en fait, c'est ça qu'on essaye de raconter, et ce qui lui donne un grand calme, parce que c'est quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, va faire preuve d'un sang-froid extraordinaire face à des trucs quand même assez spectaculaires. Donc il y a toute une part de fiction, mais en fait, une biographie, c'est aussi une part de fiction, c'est un portrait. Ce qui compte, c'est que ce soit juste, que ça lui ressemble, mais on a inventé certains faits et on a évidemment recréé les dialogues parce qu'on a perdu tous les enregistrements, malheureusement. Oui.
Vous travaillez actuellement apparemment sur un tome 2, alors on ne va pas spoiler, mais donc c'est Les Aventures de Suzanne, tome 2.
Les Aventures de Suzanne, tome 2, c'est comme il dit.
Vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça.
Non, hein, je pense qu'on va le reconsidérer en effet. Mais oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, effectivement.
Sur la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a aussi elle crée un club de sœurs optimistes qui sont des féministes qui luttent pour le droit de vote et tout ça, qui est un espèce de club international. Et elle va faire le tour du monde, en fait. Elle va aller en Asie, elle va aller aux États-Unis, elle va aller absolument partout, elle va opérer un petit peu dans plein de pays. Elle a une vie vraiment très riche. D'ailleurs, sur les paquebots de croisière, lorsqu'elle sera aux États-Unis, pour payer sa place, elle opère des dames directement dans sa cabine, sur le bateau.
C'est comme vous, quand vous faites les croisières Costa et que vous délivrez non, mais vous les opérez par la pensée. Vous leur racontez des histoires. Voilà, chacun son business.
Voilà, et puis elle est effectivement, comme vous l'avez...
Non, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est incroyable.
Oui,
dans la résistance, elle a arrangé, elle a transformé le visage de résistants pour leur permettre d'échapper à la Gestapo. Voilà. Et ça, c'est quand même... C'est quelqu'un d'admirable en tout point. Vraiment.
Est-ce qu'on sait si elle-même a eu recours à la chirurgie esthétique
Écoutez, l'auto-opération est assez difficile. Mais par contre, elle a eu un problème, c'est qu'elle perdait de plus en plus la vue. Donc elle a fini par se faire opérer des yeux. Mais à un moment, elle a dû opérer, je pense, dans un
brouillard.
Flou un petit peu artistique. Ce qui nous ramène à notre ouvrage.
En tout cas, merci Clément Aubrery. Je rappelle votre BD à main nue, publiée aux éditions des Arènes, co-signée avec la formidable romancière Leïla Slimani. Vous pour les dessins, elle pour les textes. Les deux, ça semble à merveille. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec celles qui nous racontent des histoires dont elle seule connaît le début, le milieu, la fin.
C'est
Clémentine Portier-Kaltenbach. Nous prenons la direction de la Russie et la rencontre de Pouchkine. Pouchkine était un immense écrivain, un poète, mais il était un peu jaloux.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors surtout qu'il a épousé une femme qui était vraiment plus jeune que lui, et extrêmement ravissante. En février 1831, la ravissante Natalia Goncharova, une jeune fille merveilleuse, mais aussi très coquette et très exigeante. Et pour satisfaire son train de vie et celui des quatre enfants qu'ils vont avoir ensemble, Pouchkine va passer son temps à courir après l'argent. Et c'est très pénible pour lui, parce que d'abord, il est dépendant du tsar, il a besoin d'être pensionné. Or, dans ses œuvres, il conteste l'autoritarisme et l'absolutisme du tsar. Et par ailleurs, il sait également que sa jeune femme est au goût du tsar. Donc, ça le met dans une situation très humiliante de celui qui est l'obligé d'un tsar dont il conteste l'autoritarisme et dont il sait que sa propre épouse lui plaît. C'est très, très pas facile d'être un opposant nécessiteux, en somme, si vous voulez. Et à l'époque, malgré l'interdiction légale, le duel est une pratique très courante dans l'aristocratie. On se bat sous les prétextes les plus futiles, et Pouchkine lui-même s'est très souvent battu en duel, et il portait sur lui une sorte de canne en fer assez lourde, alors pas la canne pour administrer le supplice de la roue dont je vous ai parlé un jour, mais pour se muscler le bras, en fait, pour que mon bras se raffermisse et ne tremble pas au cas où je devrais tirer. Je me permets de prendre cet accent parce que Pouchkine parlait parfaitement le français, aussi bien que le russe, sa langue natale. Alors en 1823, par exemple, il provoque en duel un certain Zubov. Vous vous souvenez de Zubov? Ça devait être la famille de l'amant de Catherine Deleuze. Oui. Zubov, Platon Zubov, qui avait 28 ans de moins qu'elle. Alors ce Zubov-là, Pouchkine l'accuse d'avoir triché au jeu. Donc il provoque en duel et il se retrouve. Imaginez la scène. Vous avez Zubov avec son pistolet et en face Pouchkine qui lui a un cornet de cerise. Il mange des cerises, il n'est pas armé, il mange des cerises, il crache les noyaux en direction de son adversaire qui lui tire dessus, le loupe. Et Pouchkine, qui ne tire pas, puisqu'il a que ses cerises, qui lui dit « Ça va, vous êtes content maintenant, vous êtes satisfait ?» Vous voyez le panache du bonhomme. Ces thèmes du duel, de la jalousie, de l'humiliation sont très présents dans l'œuvre de Pouchkine, à tel point que dans une de ses œuvres principales, Eugène Onéguine, il prophétise très exactement ce qui va lui arriver à lui dans la réalité, parce que Eugène Onéguine, ce personnage a un meilleur ami qui est un jeune poète qui s'appelle Lenski. Et un jour, Onéguine, par bravade, sert d'un peu trop près la fiancée de Lenski dans un bal. Lenski est furieux, il se bat en duel et Lenski meurt. Et c'est très exactement ce qui va arriver à Pouchkine. Par le fait d'un Français d'ailleurs, c'est un petit peu dommage ça, cette histoire-là, mais c'est un jeune homme qui s'appelle le baron de Georges Dantès. Il a le nom d'un héros d'Alexandre Dumas. Et il est originaire d'Alsace, il arrive à Saint-Pétersbourg en 1833 et il est adopté par un certain baron von Eckeren qui est ambassadeur de Hollande. C'est ce jeune homme, il est dans l'escadron des cavaliers gardes du tsar, un grand blond élégant qui adore les jeunes femmes et qui aime aussi vraiment être dans la provocation et séduire les femmes mariées. Ça l'excite, ça lui plaît. Alors il va commencer à faire une cour ardente à la femme de Pouchkine. Il multiplie les rencontres, il l'emmène à la promenade, au théâtre, au bal.
Et pourquoi elle accepte ?
Mais elle accepte
parce
qu'elle rend son mari jaloux, parce que c'est une jeune femme jolie, un peu futile, qui aime bien qu'on la courtise. Je pense qu'elle ne prend pas la mesure de l'état de jalousie épouvantable dans lequel est plongé son mari. Et à tel point qu'd'abord, ils dansent à un bal chez la comtesse Volkovsky, la princesse Volkovsky. Ils dansent ensemble, ils la serrent de près. Pouchkine est dévoré par la jalousie. Et alors, en plus, cette cour commence à faire jaser et un jour Pouchkine reçoit une lettre anonyme où il est nommé à l'unanimité coadjuteur du grand maître de l'ordre des cocus. Ça fait plaisir. Et en plus là, dans la lettre en question, on explique que sa jeune femme a aussi une liaison avec le tsar. Donc il est furieux, il écrit une lettre injurieuse à Dantès et le duel est inévitable. On essaie de l'éviter, le père adoptif de Dantès lui dit écoute, épouse la sœur de ta Goncharova, elle a une sœur qui n'est pas mariée, donc ça va se faire, le mariage se fait, mais il se marie avec cette jeune femme, mais il continue à draguer l'autre, si vous voulez. Donc, pour Pouchkine, c'est insupportable, et ça va finir sur le pré, le 27 janvier 1837. Pouchkine sort dans la rue, il rencontre le premier de ses copains venus, un certain Danzas, il lui dit « Va m'acheter des pistolets ». Il lui donne rendez-vous à la confiserie Wulf sur la perspective Nevski. Aujourd'hui, c'est là où se trouve le café Pouchkine. Donc, si un jour vous allez à Saint-Pétersbourg, devant le café Pouchkine, c'est là que Pouchkine récupère les pistolets pour aller se battre avec Dantès. Dantès tire le premier. Il blesse Pouchkine à la cuisse. Pouchkine réplique. Il touche Dantès au bras. Second coup, Pouchkine est touché en plein ventre. Il s'effondre, le visage sur le sol et la neige aussitôt imbibée de son sang, parce que ça se passe en janvier, donc il y a de la neige à Saint-Pétersbourg. Son agonie va durer deux jours d'affreuse souffrance où il sera d'un courage, d'une fermeté extraordinaire. Il n'avait que 37 ans et il était au sommet de son talent. Et figurez-vous que par un curieux fait du hasard, les deux pistolets qui ont servi à ce duel sont aujourd'hui, vous les avez vus, sont, bah évidemment Stéphane, bien sûr, vous les avez vus, ils sont à Amboise, vous pouvez aller les voir là-bas. Et voilà.
Mais c'est, ce qu'il y a, c'est que l'histoire a retenu le nom de Pouchkine et pas celui de M. Dantès.
Ben, Dantès a été retenu comme le comte de Monte Cristo dans une autre affaire. Voilà, enfin, en tout cas, le plus grand poète russe qui nous dit « Troïa aima la vie avec fureur et avec imprudence », eh bien, il est mort de la main d'un Français avec des pistolets qui sont maintenant à Amboise. Fin du plus grand des poètes russes.
Tout ça à cause d'un duel.
Merci Clémentine. Merci beaucoup.
Vous restez avec nous. Notre spécial sur les empoisonnements lui a donné une funeste idée. Celle de distiller discrètement, avant chaque quiz, quelques comprimés de Dulcolax dans le café de Stéphane.
1, 2, 3, 4.
Doucement, doucement quand même. Pauvre bourre, n'a vraiment pas besoin de ça.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Ce fut longtemps une simple légende urbaine. On ne pouvait pas croire que quelqu'un d'aussi célèbre que Stéphane Bern, en apparence aussi consciencieux, puisse se permettre de tricher dans un quiz de culture générale en consultant Internet alors qu'il était en duplex de chez lui durant un confinement. Hélas, la vérité a éclaté. Stéphane, au détour d'une réflexion sur Clémentine, qui justement était exceptionnellement chez elle, s'est trahi.
C'est injuste parce que maintenant, chez elle, elle va pouvoir utiliser Internet, Clémentine, comme je l'ai fait pendant...
Je ne veux plus jamais voir ce type de comportement. Jouons dignement à Bern to be alive. S'il vous plaît, nos auditeurs méritent mieux. Méritent mieux que ça.
Oui. Que déjà un quiz un peu plus historique.
Mais et vous ensuite, allez voir, alors, aujourd'hui, vous allez
gâter. Et ensuite, peut-être, de votre part, une modération un peu plus respectueuse des règles.
Une modération respectueuse des règles. Non, vous n'allez pas être déçus. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Question égyptologie.
C'est votre point fort. Elles sont toujours pour
c'est
lui, là.
Je déteste ça. Ouais.
Quand, en 1976, la momie de Ramsès II est venue à Paris pour être restaurée, le gouvernement égyptien a dû lui faire un passeport, car la loi française exigeait à l'époque que toute personne, vivante ou morte, devait voler avec un passeport valide. Vrai ou faux?
C'est vrai, et je peux vous dire même qu'à son arrivée, il a eu droit aux honneurs militaires rendus à un chef d'État.
Tout
parce que la République française a considéré que Ramsès II était un chef d'État, et donc il y a eu la garde républicaine qui l'attendait au pied de l'avion.
Et je me demande s'il n'était pas indiqué pharaon à profession,
pharaon,
chef d'État.
C'est une réponse qui a fusé, suivie d'un raisonnement implacable, d'un complément d'information. Mais est-ce la bonne réponse?
Vous avez perdu.
Et oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est un très joli fake. Si vous tapez sur Internet passeport Ramsès II, vous allez tomber sur un passeport avec la photo du pharaon. Mais c'est totalement bidon. La preuve, c'est un passeport biométrique. Ça n'existait pas en 1974. Stéphane, c'est une légende urbaine, cette histoire de passeport du pharaon.
Mais on nous a toujours dit
rien
ça.
Bah oui, bien sûr. Parce que c'est une jolie histoire, si vous voulez.
Oui. En tout cas, les honneurs de chef d'État, c'est vrai.
Non, ça, c'était vrai. Mais vous essayez de grappiller un demi-point?
Oui.
Oui, raté.
Ça va peut-être vous servir tout à l'heure si vous voulez faire la cinquième question.
Alors, à ce moment-là, effectivement, si j'en ai besoin pour ma comptabilité personnelle,
à ce moment-là,
vous aurez votre petit point. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Parce que la tortue a le pied sûr, est-ce une raison pour couper les ailes de l'aigle? C'est une citation d'Edgar Allan Poe, célèbre dramaturge et poète américain du début du 19e. À 27 ans, il a entrepris des démarches administratives dans l'État de Virginie pour faire un mariage posthume. Vrai ou faux?
Je vais répondre vrai parce que je ne connaissant pas cette histoire, je ne vois pas l'intérêt de poser la question si elle est fausse.
Voilà un excellent raisonnement, mais un excellent raisonnement aboutit-il forcément à une bonne réponse?
Vous avez... perdu.
Non, quand c'est Sébastien Bordenave qui prépare des questions qui n'ont aucun sens. Il y avait un piège, ou en tout cas, c'était une question tournée bizarrement. À 27 ans, Edgar Allan Poe n'a pas entrepris de démarche administrative pour faire un mariage posthume. En revanche, à 27 ans, il a épousé sa cousine qui en avait 13. Il était alcoolique et dépressif, elle va mourir de tuberculose à 24 ans. C'était vraiment un poète maudit. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi cette question existait.
Je suis contente d'être venue. Hein.
Vous êtes contente d'être venue. Pour l'instant, vous êtes à égalité dans les mauvaises réponses. Zéro partout. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Alors là, une question taillée pour vous. 1825, année que vous avez bien connue, l'année de votre baccalauréat. Le roi Charles X accepte que Haïti soit définitivement indépendante. Il ne demande qu'une condition, qu'une douzaine de villes portent le nom de membres de sa famille. Vrai ou faux ?
Ah, oh, ça me paraît curieux, c'est
ça paraît bizarre.
Mais en plus, c'est ce qu'est Haïti, Toussaint l'ouverture, c'est sous l'Empire et l'indépendance d'Haïti, c'est après la mort de Toussaint l'ouverture.
C'est sous Charles X. C'est sous Charles X, mais je vois
Est-ce que c'est pas 1823
Port-au-Prince, c'est pas vraiment un nom de famille.
Port-au-Prince, Charles, il n'y a pas une Charleville.
Non, il n'y a pas tellement de villes qui portent à Haïti le nom de...
Mais qu'on en ait fait la condition de l'indépendance, moi ça
non,
me paraît charrier.
Non, ça me paraît bizarre.
Il répond non.
Vous avez gagné.
Et vous avez raison, c'est faux. Il va plutôt demander 150 millions de francs or, soit 15% du budget annuel de la France. Il faudra donc acquitter ce que les historiens ont appelé la double dette de l'indépendance, à savoir l'indemnité en elle-même et les intérêts des emprunts. L'île terminera de payer l'intégralité au milieu du XXe siècle. C'est aujourd'hui un des plus pauvres au monde et c'est presque aussi triste que l'histoire d'Edgar Allan Poe. C'est vraiment très triste ce quiz aujourd'hui. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je vais essayer. Question numéro 4, je vais peut-être même inventer une autre réponse à la question 4. Quatrième fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier, roi d'Angleterre, est couronné en l'abbaye de Westminster le 5
1100 à pompe.
C'est pas la question, c'était une question que j'ai rajoutée. Il va régner plus de 35 ans et parmi ses descendants, il y a Clint Eastwood. Vrai ou faux ?
Évidemment.
Évidemment. Clint Eastwood, c'est bien ça, oui. Que Clint Eastwood descendrait donc, il aurait de très très lointaines origines françaises finalement par Guillaume le Conquérant. Oh là là, en même temps, lui, il était quoi, Clint Eastwood ? Il était charpentier sur des...
Oui, mais tout le monde descend, de toute façon, à un moment ou à un autre, on descend.
Vous descendez bien de Robespierre. Alors.
Oui, on peut tous descendre. Oui, effectivement,
c'est vrai, j'ai
pourquoi
vu ça,
pas, mais enfin, il descendrait d'un fils de Guillaume le Conquérant, comme l'ensemble des Européens.
Vous descendez de Charlemagne, j'ai vérifié.
Oui, c'est sûr. Mais là, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, cette histoire, quand même. Ou peut-être...
Moi, je dirais oui.
Clint Eastwood descendant d'un fils de... Moi, je dis non.
Clint Eastwood est-il le fils, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant ? Je vous repose la question une autre fois.
Il me repose la question parce qu'il veut qu'on fasse la question simple.
Loin de moi cette idée.
Je réponds
suis d'une
oui,
totale.
Bien sûr.
Vous répondez oui, et c'est une bonne réponse. Oui. C'est une égalité. Stéphane, c'est dommage. Ça s'est joué à peu de choses.
Les gens ont compris que ça ne...
Les gens savent que ma neutralité Helvète ne peut être mise en doute.
Oui,
c'était
vous
vrai.
Savez, on sait où ça a mené.
Oui, parfois on a été très très neutre. Réponse, c'est vrai, il n'est pas le seul, Clint Eastwood, à descendre de Guillaume le Conquérant. Ah, oui. Il y a aussi Sigourney Weaver et Bill Gates, figurez-vous. Question numéro 5, donc, pour vous départager, puisque vous êtes à égalité. Alors, c'est la question de rapidité. Attention, on attend bien que j'ai fini les propositions. On doit à Phalaris la prospérité d'Acragas, une ville de Sicile, en moins 550 avant Jésus-Christ. Ça, vous le saviez. Mais...
Qui sont-ce ?
Mais Phalaris...
Jusque-là, nous aurons suivi.
Mais Phalaris était un tyran particulièrement cruel. Son joujou préféré, Stéphane, c'est pour vous, un taureau fait de bronze et de laiton, suffisamment grand pour y mettre un supplicié. Puis, on allumait un feu sous le taureau. Sur qui Phalaris a testé en premier son objet de torture diabolique ? 3 propositions. Sa femme ? Sur le forgeron qui avait fait le taureau ? Ou sur l'esclave qui lui servait un verre de vin au moment où on lui a apporté
le
taureau ?
Le forgeron.
Oh, l'esclave. Ou sa femme, c'est plus drôle. Sur sa femme.
Eh oui, c'est plus drôle. Hélas, Phalaris n'était pas un comique. C'est Stéphane qui remporte le quiz. Effectivement, il l'a testé sur celui qui a construit ce taureau maléfique. Petit détail, quand la personne torturée commençait à hurler dans le taureau, de l'extérieur, un son sortait de la statue. Cela donnait l'illusion que le taureau beuglait. Et plutôt cool, Phalaris a sorti l'inventeur du taureau avant sa mort et l'a fait jeter au fond d'un ravin. Comme quoi, il avait quand même un cœur, Phalaris. C'est une belle histoire. Hein.
Magnifique.
Vous connaissez
Non, je ne connaissais pas l'histoire de Phalaris.
Alors attendez, c'est un taureau en bronze, donc il fondait sous l'effet des flammes.
Non, il ne fondait pas, au contraire. Non,
il rougissait.
Imaginez, on allume un feu sous quelque chose qui était comme dans une cocotte minute. En fait.
Oui.
On le mettait dans le taureau ou sur le taureau.
Non, dans le taureau, puisque
il y avait
et du coup, de la bouche du taureau, le seul trou, on entendait les cris.
Ça devait être super.
Ça devait être un très bon spectacle familial.
On sait s'il y a eu beaucoup de monde qui...
Mon enquête ne va pas si loin, Stéphane.
Ah, c'est dommage.
Non, elle s'arrête là. aux limites du quiz, que vous remportez. Bravo Stéphane Bern.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Car ce n'est pas dans notre nature et que Mathieu nous l'a raconté, hein, pas vrai Mathieu?
C'est vrai Stéphane, ce n'est pas du tout notre nature et nos personnages du jour aussi ne sont guère nature. En tout cas, pour les deux qui vont suivre, deux dames qui ont eu recours avec plus ou moins de succès à la chirurgie esthétique.
Ouais, enfin, une plus que l'autre. Hein.
Vous-même, vous me confirmez que tout est d'origine sur le Bern, Stéphane?
Je crois, à quelques...
Il y a eu des petites rénovations.
Non, alors pas de tirage de peau. Rien sur la peau.
Rien sur la peau. Oui, des choses secrètes. On enquêtera, mais là, les auditeurs. Comment ça, les cheveux? Qu'est-ce que vous avez fait sur
les cheveux?
Qu'est-ce que vous racontez?
J'en ai rajouté un peu.
C'est vrai?
C'est très
bien fait.
Ah, bah oui, et puis ça fait des années, ça fait 30 ans que j'ai fait ça.
Et ça tient aussi bien? Ah, parce que moi, ça commence un peu à. Alors, vous me donnerez le numéro alors.
Bah, prenez les poils de votre barbe.
J'en ai. Ça fait joli.
30 ans, c'est incroyable.
Ouais, ça tient bien.
Oh, c'est fascinant, c'était un scoop européen. Ben voilà, écoutez.
Enfin bon, c'est pas. Alors après, on n'est pas là pour parler de moi, n'est-ce pas, ni de vous?
Un peu quand même.
Après Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie esthétique, je vais vous raconter la face cachée de Marilyn Monroe. Car oui, l'icône absolue, la femme considérée comme la plus sexy au monde, eut elle aussi recours au bistouri, mais pas autant que votre personnage du jour, Mathieu, non?
Oui, en même temps, c'est difficile de faire plus que mon personnage du jour. Je vous présente la divine Jocelyne Wildenstein.
Bonjour les hommes.
Bonjour Jocelyne. Deuxième plus gros divorce de l'histoire, elle a hérité de plusieurs milliards de dollars qu'elle a dilapidés, notamment en lifting, 7 au total. Pourquoi? Eh bien, et c'est logique, pour ressembler à un chat. Fallait quand même y penser.
Oui. Et sans oublier nos chroniqueurs qui, eux, sont d'origine.
Oui.
David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines des jeux de mots,
c'est ça? Oui, tout à fait.
Des calembours.
Des calembours, ça, ils ont une origine.
Alors là, je vous fais confiance. Hein. Bon, journalistiquement, vous êtes très fort, mais je ne vois pas comment on peut remonter l'origine du calembour. Non, dans la grotte de Lascaux,
il va y avoir des...
Ça va être difficile de mettre le doigt sur la première personne qui a fait des jeux de mots, mais quand même, on peut trouver des semblants de début.
Lui, il met le doigt dans le ketchup, souvent. Hein. C'est Olivier Pouls. Chaque jour, l'histoire d'une recette, d'un ingrédient, d'un produit qu'on aime. Aujourd'hui, un produit que je déteste. Le ketchup, Olivier.
Oui, et je pense que je vais vous surprendre quand je vous dirai d'où il vient, parce que j'imagine que vous avez évidemment votre petite idée, mais je crois que vous êtes assez loin de la vérité.
Bon. C'est pas américain le ketchup.
Eh non.
Mais écoutez, on en découvre de belles avec vous. L'histoire d'une expression, ça c'est le job de Stéphane Bern aujourd'hui, l'expression « avoir un Jules », Stéphane.
Oui, vous savez, on dit ça quand on a un amant ou un mari...
Oui.
On dit une femme, c'est son Jules. D'où ça vient cette expression?
C'est qu'à une époque, il y avait beaucoup de Jules, j'imagine, non? C'était un peu comme...
Il y a surtout eu un Jules célèbre.
Ah! Rendons à César, ce qui est à César, pas du tout. Et tout de suite, préparez-vous, car Stéphane s'apprête à briser un mythe. Et oui, même Marilyn Monroe a fait de la chirurgie esthétique.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Pour vous raconter la métamorphose de cette immense star made in Hollywood, je vous propose un départ express pour la Californie. Nous sommes à Los Angeles en 1944, les États-Unis de Franklin Roosevelt sont en pleine guerre. Alors, on recrute parmi les civils pour faire tourner les usines d'armement à plein régime. À la fabrique Radioplane, ce sont des milliers de petites mains qui passent 10 heures par jour à confectionner les parachutes qui serviront au GI. Et parmi toute cette main-d'œuvre, qui retrouve-t-on? La future Marilyn Monroe. À l'époque, on l'appelle encore Norma Jean Dougherty. C'est une jeune fille de 18 ans, un peu timide, un peu bègue, à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Mais si Norma Jean a quelque chose pour elle, c'est bien sa beauté, Mathieu. C'est une jolie nymphe à la chevelure épaisse, tout en boucles châtain. Elle a des yeux d'un bleu profond et des courbes très voluptueuses. Ses atouts physiques, le photographe David Conover ne manque pas de les repérer. Au mois d'octobre, on l'envoie à l'usine de parachutes pour servir la propagande de guerre. Il doit faire des clichés des ouvrières en pleine besogne. Et à peine a-t-il mis un pied dans la manufacture que son modèle est tout trouvé. Norma Jean est parfaite. D'ailleurs, Conover se demande bien ce qu'il fait là.
D'ailleurs, Conover se demande bien.
Que lui aussi, il se demande ce qu'il fout là, finalement. Parce que
d'ailleurs, Conover se demande bien ce qu'elle fait là. Sa place est devant l'objectif, il en est convaincu. Quant à la future icône, elle se sent plutôt à l'aise face au crépitement des flashs. On pourrait même dire qu'elle a posé toute sa vie. Voilà que Norma Jean rêve d'un nouvel avenir. Elle s'imagine déjà en une des magazines. Ni une ni deux, la jeune ouvrière troque sa salopette en jean pour une robe blanche qui met ses formes en valeur. Norma Jean se présente à l'agence de mannequins Blue Book, l'une des plus réputées de la côte ouest. C'est Miss Snively qui la reçoit. Dans son bureau de l'ambassadeur hôtel, cette femme à l'œil sévère a repéré des dizaines de starlettes hollywoodiennes. Et quand elle observe Norma Jean, Snively n'a pas de doute. Cette jeune fille a beaucoup de potentiel, c'est une véritable poupée. Bon, il y a bien quelques défauts à corriger, ce nez un peu fort par exemple, ou ses cheveux trop foncés, trop bouclés. Mais Snively, l'experte, l'assure. Si Norma Jean devenait blonde et lissait sa crinière, elle ferait un malheur auprès des photographes. Toujours est-il que la jeune fille peut maintenant claquer la porte de cette usine qu'elle déteste. Elle vient de signer son premier contrat de modèle. C'est ainsi que tout commence. Norma Jean débute sa transformation physique par des modifications capillaires. Sur les conseils de son mentor, elle dit adieu à sa couleur naturelle. Blond vénitien, blond cendré, blond doré, elle teste 50 nuances de blond avant d'arriver à la couleur qu'on lui connaît, le blond platine. La voilà qui sourit à pleines dents à des photographes qui succombent tous à son incroyable charme. Mais Norma Jean ne veut pas se contenter d'une carrière de mannequin, non, elle a une autre aspiration. Elle voudrait devenir actrice. Et c'est chose faite quand à l'âge de 20 ans, elle est embauchée par l'une des sociétés de production les plus puissantes d'Hollywood, la 20th Century Fox. Alors désormais, merci de l'appeler Monroe, Marilyn Monroe, du nom de son grand-père maternel. Et pour décrocher des rôles, la star en devenir comprend mieux que personne la signification de cet adage selon lequel il faut souffrir pour être belle. Et oui, pour dompter les cheveux de Marilyn, les coiffeurs utilisent des techniques assez barbares. Écoutez plutôt, sa crinière est défrisée à l'aide de soude caustique, soit une substance hautement irritante. Elle subit aussi une épilation à l'électrolyse pour modifier l'implantation de ses cheveux. Et je le répète, elle multiplie les décolorations pour entretenir cette blondeur qui caractérisera son personnage. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que pour taper dans l'œil des producteurs de cinéma, Marilyn Monroe ne s'est pas seulement résignée à torturer son cuir chevelu. Elle est aussi passée sur le billard. Des dossiers médicaux exhumés il y a quelques années l'attestent. En fait, quand elle accepte de faire de la chirurgie esthétique, Marilyn Monroe est sous la coupe de Johnny Hyde, l'un des impresarios les plus puissants d'Hollywood. Il a plus de deux fois son âge et la rumeur court qu'il a fait de la starlette sa maîtresse. Nous sommes à la fin des années 40 et la carrière de Marilyn Monroe ne décolle pas vraiment. Elle a joué dans quelques navets, elle erre de casting en casting, alors elle accepte. Ce nez quelque peu disgracieux sera affiné et la forme du menton sera réajustée. Non, imagine, la petite fille sage aux yeux mutins n'est plus. Non, Marilyn Monroe devient l'archétype de la femme fatale, la blonde d'Hollywood. Après ces transformations, la star montante signe un contrat de 7 ans avec la Fox et voit son salaire augmenter. Elle multiplie les rôles de pin-up et pas une semaine ne passe sans qu'elle apparaisse sur la couverture d'un magazine ou ne reçoive des centaines de lettres enflammées. Mais la légende naît véritablement en 1953 lorsque Marilyn Monroe tient le premier rôle dans l'incontournable Gentlemen Prefer Blondes, où les hommes préfèrent les blondes en version française. Rappelez-vous, une robe rose, un collier de diamants étincelants, des cheveux blonds parfaitement coiffés et une interprétation culte. Mais le succès n'aspire pas la mélancolie. La gloire de Marilyn n'a jamais effacé les souffrances de Norma Jean. Parfois, elle veut retrouver l'anonymat et la célèbre fausse blonde revêt une perruque brune. En 1962, alors qu'elle n'a que 36 ans, l'étoile d'Hollywood arrête de briller. Marilyn Monroe est retrouvée sans vie à son domicile. On la maquille une dernière fois. On tente de la coiffer aussi, mais ses cheveux peroxydés ont été si abîmés qu'il n'y a plus qu'à affubler la star d'une perruque. Ironie de l'histoire, c'était celle qu'elle avait détesté porter dans les désaccès de John Huston. Notons tout de même que les cheveux de la plus célèbre blonde qu'Hollywood ait jamais connue continuent d'entretenir sa légende. En 2019, une simple mèche de Marilyn Monroe fut mise aux enchères, prix de départ 16 500 dollars. Décidément, les légendes ne meurent jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Combien vaudra une mèche de Stéphane Bern dans quelques années?
Beaucoup moins.
En plus, une mèche de vos faux cheveux, Stéphane, il faut le rappeler, puisqu'on
non,
a eu cette info.
Ce sont les miens, même, mais on les a aidés à repousser.
On les a un petit peu aidés. Voilà. Alors, pour continuer à parler de Marilyn Monroe, nous sommes avec l'écrivaine Anne Plantagenet, qui lui a consacré une riche biographie. Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne Plantagenet, vous êtes écrivaine, vous avez consacré une riche biographie, non à Aliénor d'Aquitaine.
c'est la petite blagounette de l'historien.
Mais à Marilyn Monroe dans la collection Folio Biographie chez Gallimard. Savoir que l'idéal de beauté aurait fait appel au bistouri pour son manteau et son nez dès l'âge de 24 ans, c'est un peu, pardon de le dire, mais un mythe qui s'effondre. Vous le percevez comment ?
Alors écoutez, moi je suis plutôt, je ne suis pas d'accord vraiment avec vous. Moi je trouve qu'au contraire, ça fait partie du mythe, ça fait partie de la légende. Voilà, Marilyn appartient à une époque où de toute façon, toutes les actrices passaient sur le billard, hein, elles n'avaient pas le choix, leur corps ne leur appartenait pas. Donc je trouve que, évidemment, la chirurgie ne donne pas le talent. Et donc toutes les actrices passaient sur le billard, mais elle avait quelque chose en plus. Donc ça fait partie de son parcours, de cette mythologie qui l'entoure.
Anne Plantagenet, vous dites qu'elle avait du talent, et c'est sûr qu'elle avait un talent supplémentaire par rapport peut-être aux autres actrices de l'époque, mais néanmoins, vous dites aussi quelque part que sans la chirurgie, si elle avait dit par exemple « non, moi je ne fais pas de chirurgie esthétique », peut-être qu'elle n'aurait pas connu la carrière qu'elle a eue par la suite, elle ne serait pas devenue ce mythe.
Certainement, parce que de toute façon, voilà, les actrices n'avaient pas le choix à cette époque. Il y avait vraiment des canons de beauté. Ce sont les studios hein, qui commandaient, ce sont les studios qui payaient les opérations des actrices. Donc, il fallait, elles se faisaient refaire les dents, le nez quand il fallait, le menton, la poitrine. Et après, c'est là où on voit celles qui ont réussi à se distinguer là-dedans, parce qu'elles se ressemblaient toutes quand même. Toutes ces actrices avaient exactement le même profil. Donc, celles qui arrivaient à percer, comme Marilyn, elles ne le devaient en fait qu'à autre chose qu'elles avaient en elles, une espèce d'envie d'y arriver absolument et de dépasser toutes les autres.
Mais si on va au-delà justement du carcan imposé par Hollywood, par les studios, par les producteurs ou les agents, parce qu'il y a quelque chose d'assez terrifiant, au fond, son corps devient pour Marilyn Monroe son arme suprême, mais en même temps une prison mortifère qui aura raison de sa vie.
Exactement, les deux, exactement. Et c'est bien le drame et le déchirement de ce destin effroyable, parce que en effet, son corps, vous venez de le dire, est devenu son arme, l'arme de cette petite fille orpheline à l'enfance tellement horrible. Et elle va faire de son corps son atout pour devenir la blonde la plus célèbre du monde, la fausse blonde la plus célèbre du monde. Et en même temps, oui, elle est prisonnière de ce corps. Ce corps, il n'apparaît qu'après 9 heures de maquillage. Et de décoloration. C'est tout un processus pour devenir Marilyn. C'est pas elle. Elle n'est pas Marilyn, en fait. Elle est Norma Jean. Marilyn, c'est une créature artificielle. Donc, en effet, c'est Frankenstein, en fait. Elle est prisonnière de la créature qu'elle a elle-même façonnée.
Mais d'un point de vue psychologique, elle était satisfaite de ça. Elle en jouait. Elle disait même, ça prend du temps d'être Marilyn, pour excuser ses retards. Elle jouait de cette image. Mais est-ce qu'en privé, au fond d'elle-même, est-ce qu'elle regrettait d'avoir accepter ses opérations et de jouer le jeu de cette transformation à chaque fois? Est-ce qu'elle a regretté de ne pas être restée Norma Jean finalement?
Alors, moi je crois même qu'elle en est morte en réalité. Elle en est morte parce qu'effectivement, elle en jouait, comme vous dites, parce que ça faisait là aussi partie de sa figure publique, de son personnage public, d'arriver en retard. Il y avait tout cela l'entourait, bien entendu, même à l'anniversaire de Kennedy, elle est arrivée en retard sur scène. Mais en réalité, bien entendu, c'était une vie de souffrance permanente.
Elle a eu cette phrase, Marilyn, qui est, au demeurant peut sembler étonnante. L'imperfection est beauté, la folie est génie, et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux. Qu'est-ce que ça trahit, selon vous, chez elle ?
Je pense que ça trahit chez elle une conscience aiguë de, de l'importance de l'excès. C'est-à-dire que l'excès attire tous les regards, alors que la mesure finit par faire bâiller d'ennui. Ça, elle l'avait bien compris. Ça faisait partie effectivement de son personnage public, d'incarner ces excès-là.
Mais si elle avait, on peut imaginer maintenant si elle était devenue une dame un peu plus âgée, elle aurait eu d'autres rôles. Peut-être que le carcan d'Hollywood se serait desserré. Mais à aucun moment elle n'a pensé que toutes ces métamorphoses, notamment sur ses cheveux, étaient nocives, parce qu'aujourd'hui, on sait les effets des décolorations, l'épilation, enfin, c'est terrible ce qu'elle s'est imposé.
Oui, vous savez, moi je pense vraiment que Marilyn ne pouvait pas vivre très très vieille, d'une certaine façon, parce qu'en effet, tous ces excès qu'elle avait fait subir à son corps, je crois qu'elle en était parfaitement consciente. D'ailleurs, elle l'a bien vu, puisque le dernier film achevé qu'elle a tourné, hein, l'hémicycle, les désaccès de John Huston, où elle portait cette fameuse perruque, hein, qu'on a mise sur son cadavre, ce film a été tourné en noir et blanc, parce que justement le visage de Marilyn était trop ravagé, entre autres. Hein, il y avait aussi celui de Clark Gable et d'autres acteurs du film. Mais pour ces raisons-là, elle était très abîmée. Elle est morte à 36 ans, ce qui est évidemment pas du tout vieux. Mais son corps était très abîmé et les studios déjà ne voulaient plus d'elle. Elle était déjà en fin de carrière. Elle avait été renvoyée. Elle avait toujours des problèmes avec les studios pour ses excès en question, mais aussi parce que ça marchait plus. En fait, Marilyn, il y avait Liz Taylor qui était en train de percer. Il y avait des actrices comme ça qui arrivaient. Et Marilyn, elle était déjà en bout de course. Donc, je sais pas si elle avait continué de vivre, si elle aurait continué de tourner et d'avoir des rôles au cinéma. Je ne peux pas le dire.
Mmh. Quelque chose qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas eu de changement, on a l'impression, dans les mœurs à Hollywood. C'est-à-dire, ce culte du corps, on a l'impression que, malgré toutes les révolutions qu'il y a pu avoir depuis, les actrices sont toujours sous pression d'un point de vue esthétique, comme ça, des canons de beauté. On a l'impression que la chirurgie esthétique est toujours très présente à Hollywood.
Oui, c'est vrai, on a cette impression forte à Hollywood, beaucoup moins en France. Et en même temps, j'ai quand même l'impression que ça change, que la représentation des corps est en train de changer. Alors, on le voit notamment dans des séries, par exemple, je pense à une série comme ça, Game of Thrones, où on a vu dans cette série, au contraire, des gens très grands, des gens très petits, des gens difformes, etc., etc. Il y a peut-être quand même quelque chose qui est en train de changer de ce côté-là.
Vous avez tout à fait raison. En tout cas, merci beaucoup, Anne Plantagenet. Je rappelle votre biographie de Marilyn Monroe, qui est disponible dans la collection Folio Biographie. Et vous venez aussi de publier l'unique Maria Cazares.
Oui.
Oh là là, c'est toute ma jeunesse. Aux éditions Stock, Maria Cazares, une autre beauté, une comédienne aussi. Je sais pas, vous avez pas les 10-33 tours de Maria Cazares?
Alors, non, j'en ai assez peu, Stéphane.
J'ai tous les 10 de... Il y avait Gérard peut-être. Philippe et Maria Cazares qui enregistraient tous les grands textes. Oh là là, c'était magnifique. Grand personnage. Bah, merci beaucoup, une comédienne, une femme libre aussi, hein, Maria Cazares. L'anti-Marilyn, en quelque sorte.
Ah oui, c'est sûr, elle a refusé la chirurgie esthétique.
Oui, bah elle a bien raison. Merci beaucoup, Anne Plantagenet.
Merci.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Un peu, beaucoup, voire, Mathieu, à la folie. Mmh. C'est le cas de Jocelyne Wildenstein, dite la femme chat.
Oui, alors on peut, comme moi, aimer les chats, comme Pouls aimer les femmes, ou comme David aimer les deux. Il est en revanche plus difficile, à moins d'être un grand fan du cubisme, d'apprécier sur le plan esthétique celle qu'on surnomme la femme chat.
Oh là 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 là.
Effectivement, oh là 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 est la première réaction naturelle pour qui découvre une photo de Jocelyne Wildenstein. Et ce que vous allez faire tout de suite en tapant son nom dans Google Images, car je vous connais, c'est humain, vous avez envie de découvrir de vos yeux l'ampleur de la catastrophe. Oui, on aime ça, les catastrophes. Il y a une partie de nous, tout au fond, qui adore constater les dégâts que peuvent causer la chirurgie esthétique sur un visage humain. Alors, assumons ce voyeurisme sadique, faisons comme quand il y a un accident de voiture, vous savez, sur l'autoroute et qu'on tourne un peu la tête pour voir si des fois on n'apercevrait pas un bout de bras ou une jambe désarticulée. Mmh. Oui, ça serait bon, Stéphane. Alors,
ça fait surtout des embouteillages de l'autre côté de la voie.
Et des suraccidents. Penchons-nous sur le destin de cette femme qui, pour ceux qui n'ont pas leur téléphone sous la main, est une sorte d'hybridation maléfique entre Régine, Grishka Bogdanov et Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. Mmh. Visuellement, on est entre Robocop et les Aristochats. C'est violent, pourtant Jocelyne, icône un peu pathétique de la jet set new-yorkaise, n'a pas toujours ressemblé à ça. Sa vie démarre au contraire dans la simplicité de la campagne suisse romande. Jocelyne Périsset, son nom de jeune fille, est née donc en Suisse, à Lausanne, en 1945. Famille modeste, un père qui travaille dans un magasin d'articles de sport, la petite Jocelyne est une très belle femme et rapidement, elle se lasse des rejetis. Elle s'amourache d'un producteur de cinéma qu'elle suit à Paris, elle a 17 ans. « Ma vie a changé à ce moment-là », dit-elle. « Lausanne était ennuyeuse. À Paris, j'ai commencé à rencontrer des gens glamour et passionnants. » C'est là, Stéphane, qu'elle découvre sa vocation. Pour certains, c'est la médecine, pour d'autres, le journalisme, pour d'autres encore, la musique. Jocelyne, elle, décide de mobiliser toute son énergie au service d'un but ultime, réussir à ne jamais rien glander de toute sa vie. Pas le moindre dug à la fac, pas le moindre petit boulot. Pourquoi risquer de se froisser un neurone alors qu'il suffit de se faire entretenir par ces généreux mécènes de chair fraîche qu'on appelle les milliardaires. Jocelyne adore les milliardaires. Rapport à l'argent, ça l'arrange. À 20 ans, elle se met à fréquenter le cinéaste Sergio Gobbi. Grâce à lui, elle passe beaucoup de temps à explorer l'Afrique, un continent dont elle tombe amoureuse, figurez-vous. Oui, un pays dont elle se forgera une vision pas du tout caricaturale ou colonialiste. L'Afrique est un paradis, dit-elle rieuse, à l'époque où elle pouvait encore rire, bien sûr. Ouais, c'est plus possible aujourd'hui. Vous rencontrez des gens qui regardent la vie différemment. Ils adorent l'aventure. Eh oui, un peu comme dans Tintin au Congo. L'Africain rit beaucoup et aime emmener le blanc en safari, c'est son plaisir. Sur place, Jocelyne rencontre Alec Wildenstein, un éleveur de chevaux, marchand d'art, milliardaire. Alec, passionné par les félins, se prépare à partir à la chasse au lion. Jocelyne, qui, il faut le préciser à ce stade du récit, n'est pas et ne sera jamais au courant des idées antispécistes développées par Émeric Caron, décide gaiement de se joindre à Alec pour chasser le lion. Et vas-y que ça défouraille dans la savane à tout va. Tant pis si en plus du lion, un pisteur kényan perd la vie. Ça fait partie des risques du métier de rabatteur. Le soir venu, Jocelyne et Alec, ivres d'adrénaline, se galochent allègrement pendant que ce qui reste des kényans fait rôtir le lion à la broche. À la recherche d'une manière encore plus kitsch de poursuivre cette idylle entamée lors d'une chasse au lion, Jocelyne et Alec ne voient qu'un seul truc, se marier à Las Vegas. Le 30 avril 1978, c'est chose faite. Le couple aura deux enfants, Diane et un petit garçon qu'en mémoire du rabatteur kényan buté par erreur lors de la partie de chasse, Alec décide d'appeler Moussassa. Non, je déconne, il l'appelle Alec Junior. Le couple s'installe à New York dans un grand appartement de la Olympic Tower, un building cossu de Manhattan, et alors là, c'est la grande vie. Seulement voilà, les années passent et Jocelyne, comme nous tous, ne rajeunit pas. La différence entre nous et Jocelyne, c'est qu'elle, elle ne l'accepte pas. Elle va commencer léger en découvrant ce petit produit, un chouïa plus efficace que la Nivea Q10 qu'on appelle le Botox.
Ah mais ça, j'avais bien consommé ça.
Oui. Voilà, bon, ça, toutes les stars s'en font injecter régulièrement. Le problème, c'est que Jocelyne y prend goût. Et à partir des années 90, Jocelyne sera comme la Tour Saint-Jacques, constamment en travaux. La racine de cette obsession, la peur de vivre, bien sûr, mais surtout de ne plus plaire à son mari, Alec, l'amoureux de l'Afrique. Alors, se passe dans le cerveau de Jocelyne quelque chose d'assez inouï en termes de conneries. Comme dans une chronique de Castelo Lopez, elle se dit un jour « Tiens, vu qu'Alec, il adore les félins, si je me faisais refaire la tronche pour ressembler à un chat ?» Oui, Jocelyne, sauf que, sauf info qu'on n'a pas, Alec ne baise pas ses chats. Hein. Alec aime les chats qui ressemblent à des chats et les humains qui ressemblent à des humains. Fatalement, le jour où après cette opération, Jocelyne fait la surprise du résultat à son mari...
Je vais enlever mon masque, attention.
Ce dernier a la peur de sa vie et demande le divorce dans la foulée. Elle pensait qu'elle pouvait réparer son visage comme on répare un meuble, explique Alec. La peau ne fonctionne pas de cette façon, mais elle n'écoutait pas. Et non, Stéphane, il faut se rendre à l'évidence, Jocelyne est un peu zinzin. D'autant qu'elle maintient très sérieusement que son visage est naturel. Eh oui, elle a simplement hérité de sa grand-mère, ses yeux de chat et ses pommettes hautes. En réalité, vous en doutez, sa nouvelle tête ne doit rien à son patrimoine génétique, mais tout à deux artistes plasticiens sans scrupules, les docteurs Richard Coburn et Norman Ehrentreich, dont le chef-d'œuvre n'est pas tellement le résultat esthétique, mais la somme qu'ils ont réussi à facturer à Jocelyne, ou plutôt à son mari, 3 millions de dollars. Alors, commence ce qui ressemble à un épisode d'amour, gloire et beauté, où il n'y aurait ni amour, ni gloire, ni beauté. La procédure de divorce est lancée. Mais voilà, tout bascule le 3 septembre 98. Jocelyne est au Kenya, dans leur ranch, où elle vit depuis plusieurs mois, quand elle flaire quelque chose de pas net. Son sixième sens félin, probablement. Trois jours plus tôt, le 31 août, Alec lui faxe une lettre bizarre lui indiquant qu'elle n'est pas autorisée à rentrer dans leur résidence de New York car il prévoit des festivités cette semaine-là. Jocelyne s'y rend quand même, et juste avant minuit, le 2 septembre, elle franchit la porte de leur hôtel particulier et surprend Alec avec une jeune top modèle russe à poil. Alors, c'était pas du tout ce que tu crois, chérie. Cette jeune femme est en train de me faire réviser mes déclinaisons. Car oui, je voulais te faire la surprise, mais tu as tout gâché. Je me lance dans l'apprentissage du cyrillique. Tes explications qui ne satisfont pas Jocelyne, d'autant qu'avant de la reconnaître, Alec a dégainé un pistolet 9 mm avec lequel il l'a tenue en joue. Choc psychologique, Jocelyne appelle les flics. Alec finira la nuit au poste, menotté, avant de retrouver sa gueule en une des tabloïdes le lendemain matin. Désormais, en position de force, Jocelyne, la féline, sort les griffes et obtient une prestation compensatoire, tenez-vous bien, de 2,5 milliards de dollars et, parce que sinon c'est pas suffisant, 100 millions de dollars chaque année pendant 13 ans. Alec déclarera...
Ah, ça fait mal, hein.
Tu m'étonnes, mais il a pas le choix. Depuis ce divorce retentissant, Jocelyne fait profil bas, même s'il est un peu compliqué de parler de profil la concernant. Elle se montre moins souvent en public, sauf pour clamer qu'elle est ruinée, en état de banqueroute personnelle et qu'elle est désormais obligée de demander de l'aide à ses amis pour vivre. Heureusement, si Jocelyne a tout perdu jusqu'à un visage humain, il lui reste l'amour. Et oui. En la personne du fashion designer Lloyd Klein, âgé de 53 ans, un petit genou pour notre panthère sous cortisone de 80 balais, qui contre toute évidence continue de marteler qu'elle n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Bien sûr que non. Vous savez, quand on est jeune, on a une certaine fraîcheur qui s'estompe avec les années, mais j'ai toujours les mêmes yeux, les mêmes pommettes et le même nez. J'étais juste plus jolie à l'époque. Bien sûr, Jocelyne, laissons les auditeurs jugés par eux-mêmes sur Google Images, c'est très bien fait. Il y a des photos avant-après, comme Henri Lecomte dans la pub de Comme J'aime. Vous vous ferez votre avis. Et n'oubliez pas que, passé un certain âge, quand votre peau perd de son élasticité, la chirurgie esthétique n'est pas la seule option. Parfois, ça peut mal tourner. On l'a vu avec Jocelyne, où il y a pire encore. J'aurais pu vous parler, par exemple, de l'opération d'augmentation pénienne que j'avais offerte à David pour ses 40 ans. Croyant bien faire, je lui avais pris l'option luxe, le modèle Rocco Siffredi, son idole. Hélas, une fois qu'on a retiré les bandages et qu'on a comparé avec le modèle.
Il y avait 36 cm de différence entre l'un et l'autre.
C'était la déception. Non, la chirurgie esthétique, c'est trop dangereux. Il y a aussi, si vous aimez la mer et les tzatziki, ce que Stéphane Bern, qui a toujours une peau de bébé, appelle la solution Paros. Vous achetez une villa là-bas, il y en a de très bien à moins de 3 millions d'euros, et ma foi...
Il y a tellement de vent que t'as l'air toujours lifté.
Oui, c'est ça la vie, avec Stéphane Bern. Un bon entendeur, Jocelyne.
Merci Mathieu. Bon, c'était à
18%. Vous avez l'air
vrai.
De bien connaître cette famille.
Je connais très bien.
Et vous nous disiez que... C'était un petit peu un filou, n'est-ce pas, le mari
plutôt,
décédé.
Oui,
il est parti, on peut le dire.
Il ne pouvait plus voir sa femme en peinture.
Il n'est pas le seul.
C'est ces gens qui préfèrent avoir l'air chelou qu'avoir l'air vieux, en fait.
C'est pas, on se demande ce qui se passe dans la tête des gens qui font la chirurgie esthétique comme ça. Gonflement des lèvres, etc. On se dit, mais il n'y a personne pour leur dire « Écoute, chérie, fais pas ça, tu vas être... »
Ils sont aussi mal entourés, probablement. Ils n'ont pas d'amis sincères. Dites-moi, Stéphane, est-ce que vous l'avez vu récemment ou pas? Parce que je crois qu'elle s'est fait dégonfler un petit peu. Elle a retrouvé un visage plus humain que dans les années 2010, 2011.
Non, je ne l'ai pas revu depuis.
Apparemment, elle a peut-être pris conscience.
Elle est retournée en Suisse, non, chez vous?
Ah oui, elle est retournée, mais elle a plus un radis.
Par contre, j'ai la solution pour savoir pourquoi elle a perdu tout cet argent.
Ah oui?
C'est qu'elle s'est amourachée de jeunes hommes à qui elle a payé aussi des...
Oui, mais comme je le disais,
Stéphane. De la chirurgie esthétique.
Oui, mais 2,5
milliards. Et qui ont aspiré, vous avez...
Ça fait quand même beaucoup, quand même, 2,5 milliards en chirurgie esthétique. Oui. Ça fait beaucoup de jeunes hommes.
Oui.
Sacré cougar.
Oh.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Oui. Stéphane, je sais que c'est difficile.
Non, je sais. Au revoir, personnages du jour. On les laisse à leur lifting pour retrouver nos chroniqueurs qui sont si beaux, naturellement.
Oh, ils sont magnifiques, surtout Olivier Pouls. Olivier Pouls, vous nous racontez l'origine de ce condiment un peu particulier.
Oui, je pense que je vais vous surprendre parce que, et non, ça ne provient pas des États-Unis, les amis. Je vais vous raconter la surprenante histoire de ce condiment qui a fait le tour de la planète.
Ça va être allemand, tu vas voir.
Le ketchup serait allemand, c'est l'hypothèse formulée par Stéphane Bern. Le mot de la fin, c'est Stéphane qui l'aura. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, l'expression « avoir un Jules ».
Oui, vous rencontrez des jeunes filles qui se demandent entre elles « Et toi, t'es un Jules ?»
C'est une scène très courante
dans les rues aujourd'hui.
Non.
Oui, c'était peut-être en 1953, oui, c'était ce qu'on se demandait dans les cafés. Mais
ou un peu au second degré, peut-être.
Oui, peut-être au second degré, effectivement. Non,
vous n'avez jamais entendu cette expression?
On l'a entendu, Stéphane.
Oui, alors,
on l'a entendu dans des films en noir et blanc.
Mais c'est qui un Jules? Est-ce qu'il s'appelle Jules? Non.
Oh Stéphane, on a hâte. Mais en attendant, partons aux origines. D'habitude, c'est un objet, hein, David. Mais aujourd'hui, c'est pas un objet, c'est une pratique, la pratique du jeu de mots.
Oui. Le jeu de mots, c'est vraiment l'archétype de ce qu'on appelle parfois la blague de daron. Vous voyez, c'est-à-dire ces blagues dont, au mieux, vous obtenez une réaction du genre
pas mal.
Ouais. Et dans le pire des cas, parce que ça arrive aussi, vous obtenez la haine de votre interlocuteur quand vous faites des jeux de mots. Ça peut être très très violent, les réactions aux jeux de mots. Alors, à part les darons, les jeux de mots, c'est aussi le mode d'écriture préféré de beaucoup de journalistes rigolos, hein, qui disent des trucs du genre Castex chinois. Oui, tout ça. Ou bien qui terminent leur reportage à la télévision en disant « Une chose est sûre, la croissance est en train de redémarrer. » Et là, on voit une voiture qui redémarre. Vous voyez ces moments. Il y a aussi les gens qui utilisent le jeu de mots pour faire des blagues sur mon pays. Hein, c'est quoi un cochon qui rigole? C'est un portugais. Voilà. Et je trouve au fond...
J'ai entendu celle-ci.
Et je trouve au fond que c'est fou que le jeu de mots survive. On continue à en faire, on continue à les détester, mais en même temps à trouver que c'est un peu marrant parce que c'est
parce
nul.
Parce que c'est nul, oui.
Voilà, c'est le fameux « c'est bien parce que c'est pas bien » qui est la maxime du jugement esthétique des hipsters, par exemple. Mais alors, d'où ça vient, les jeux de mots? Alors, vous imaginez bien que c'est dur à trouver, mais il y a un auteur américain qui s'appelle John Pollack et qui a écrit ce livre que j'ai entre les mains ici. Vous pouvez le voir, alors pas à la radio, mais en tout cas les gens qui regardent sur Internet. Et qui s'appelle ce livre « The Pun Also Rises », titre qui est lui-même un jeu de mots en anglais. Est-ce que vous l'avez?
Non.
C'est un petit peu littéraire.
Alors, c'est quoi the pun?
Pun, ça veut dire jeu de mots en anglais.
Ça
veut dire jeu de mots. Et The Pun Also Rises, c'est un jeu de mots sur The Sun Also Rises,
d'accord.
Est un roman de Ernest Hemingway.
Il faut être pointu, être lettré.
Et donc, c'est une sorte de réflexion sur le jeu de mots et l'histoire du jeu de mots aussi. Et pour John, le premier jeu de mots de l'histoire de l'humanité, il est visuel, c'est une statuette vieille de 35 000 ans qui représente une femme nue, mais si on tourne la statuette à 180 degrés, ça devient un pénis en érection. Et voilà, deux idées différentes dans le même objet, c'est le même principe que deux idées dans le même son, principe qui est à la base du jeu de mots, comme dans votre nom de famille Mathieu, qui est aussi une fête. Voilà, ce qui est quand même amusant.
Mais
voilà.
Je suis une blague.
Exactement. Ensuite, on trouve déjà des jeux de mots dans l'Égypte ancienne. Il y a une inscription notamment qui a été découverte et qui parle du dieu Seth qui essaye de séduire le dieu Horus en lui disant en gros « tu as un joli derrière ». Mais le mot « derrière », visiblement en égyptien antique, ça se dit pareil que « force ». J'admire tes fesses, j'admire ta force, double sens, ambiguïté, la déconne, il y a 4000 ans.
De sacré déglingo,
voilà.
L'Égypte antique.
Alors on peut se demander aussi quel est le premier jeu de mots célèbre. Eh bien le premier jeu de mots célèbre, il est sans doute dans l'Odyssée d'Homère, un moment un peu connu en fait, que je pense que vous vous souvenez peut-être. C'est quand le cyclope Polyphème demande à Ulysse « comment tu t'appelles ?» Ulysse y répond « personne ». Ensuite, Ulysse y crève l'œil du cyclope. Et quand les autres cyclopes ils viennent demander à Polyphème « vas-y, qui c'est qui t'a crevé l'œil ?» Polyphème il dit bah, « c'est personne ». Et du coup, les autres ils se cassent et Polyphème il est triste. C'est un jeu de mots. Et quand on y pense, cette blague de l'Odyssée qui date de 800 ans avant Jésus-Christ, c'est en gros la même que celle qu'il y a dans le Dîner de cons 2800 ans plus tard.
Oui,
vous savez, son nom c'est Leblanc.
Bien sûr.
Et c'est juste son prénom.
C'est juste
Leblanc. Exactement la même à 2800 ans d'écart, c'est assez fou quand même. Et à partir de là, donc le jeu de mots ne s'est plus jamais éteint, au point que aux États-Unis, il y a des championnats de jeux de mots où des concurrents doivent faire des jeux de mots sur un thème, par exemple les noms de pays, tout ça en un temps limité devant un public. J'ai regardé des vidéos de ces championnats de jeux de mots. C'est assez fou. C'est une grosse battle de blagues de darons en public. Et d'ailleurs, si John Pollack, il a écrit ce livre sur les jeux de mots, c'est qu'il a été lui-même champion des États-Unis en 1995.
C'est pas un livre qui se moque des jeux de mots. Le mec
non,
est partie prenante.
Le mec, il est à fond complètement et il a écrit en plus un livre assez intelligent dessus. Alors, en son hommage, si vous voulez bien, je vais faire quelques jeux de mots. Bon, Mathieu Noël, voilà, vous êtes un peu un jeu de mots sur pattes. Stéphane, il y a déjà Burn to be Alive. Je vais pas en rajouter. Et Olivier, vous m'inquiétez un peu parce que tout à l'heure vous êtes arrivé en retard alors que normalement vous partez toujours en pole position.
Ouais.
J'ai l'impression que vous vous sentez pas super bien, ça me donne envie de vous prendre le pulse.
Non.
À mon avis, vous avez attrapé froid à la piscine hier parce que quand on vous met dans l'eau, vous devenez un pulse mouillé.
Mm-hmm.
Et ça c'est pas top.
J'ai l'impression d'avoir 12 ans et d'être dans la cour de récréation de mon école.
Vous avez vécu tout ça.
Mais j'en ai encore quelques autres à vous donner. Vous savez, le tir au pigeon, la poulse, pan. J'ai la chair de poule.
La chair de poule.
Ça, oui, vous avez vraiment essuyé de graves moqueries.
Et vous voyez, vous me haïssez un petit peu là. Et voyez, c'est ça un petit peu.
C'est sympathique les jeux de mots. Et surtout quand ça fait des bites, c'est ça qui est savoureux, je trouve, le jeu de mots. C'est l'almanach Vermeaux, c'est toute cette époque. En tout cas, des ponts entre Homère et Jacques Weber, on n'avait jamais vu ça. C'est magnifique. Il n'y avait que David Castello-Lopez pour nous entraîner aussi loin. Vous retrouvez évidemment les origines en podcast sur toutes les applis audio et le site europe1.fr. Et justement, la chair de Pouls, on en parlait. Olivier Pouls arrive.
On va faire son propre ketchup.
Du ketchup homemade. Vous en rêviez, Stéphane?
Ah oui.
Vous en rêviez bien. Olivier l'a fait.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, une émission d'histoire, mais une émission aussi qui contient pas mal de scoops. Aujourd'hui, attention, l'AFP peut déjà préparer la dépêche. Le ketchup ne serait pas américain, selon Olivier Pouls. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Olivier ?
Alors, c'est pas qu'il ne serait pas américain, c'est qu'il n'est pas américain. Oh. C'est avéré, c'est sûr et certain. Alors, évidemment, on va y revenir dans un instant. C'est la cuisine américaine et une certaine marque dont je vais vous parler qui ont popularisé ce ketchup dans le monde entier. Mais à l'origine, au commencement du commencement, il y a le ketsiap. D'ailleurs, vous remarquez que phonétiquement, ça se prononce presque de la même façon. C'est d'ailleurs de là que vient le nom ketchup, ketsiap. Et le ketsiap, qu'est-ce que c'est ? C'est un condiment chinois traditionnel à base de poisson fermenté qui servait à relever les plats.
Il n'y a pas de poisson dans le ketchup ?
Ah ben non, mais c'est l'idée d'avoir un condiment qui va servir...
Aussi,
hein. Bah, oui, évidemment, mais qui va... Mais écoutez la suite de mon histoire.
Le mot ketchup vient de ketsiap.
Le mot ketchup vient de ketsiap parce que ce condiment est apporté par les colons anglais à la fin du XVIIe siècle. Il va arriver aux États-Unis, mais son goût n'est pas exactement, ne correspond pas à ce que veulent les Américains ou nous, les Occidentaux, et donc on va le modifier, et on va le modifier à partir du début des années 1800 en y ajoutant de la tomate. Ça va l'arrondir. Et les recettes vont changer petit à petit, mais le vrai ketchup tel qu'on le connaît là aujourd'hui, lui, il naît en 1876. À Pittsburgh, aux États-Unis, évidemment, avec une recette qui intègre du vinaigre et du sucre. Et c'est la fameuse marque Heinz, le tomato ketchup.
Ah, c'est la marque Heinz qui carrément a inventé le ketchup tel qu'on le connaît, en fait.
Alors, c'est celui que vous avez dans la porte de votre frigo, juste à côté du pot de moutarde Amora. Oui, celui-là, c'est le Heinz. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une seule et unique recette de ketchup Heinz, parce qu'en fonction des marchés et des goûts, il s'adapte. Le goût asiatique n'est pas exactement le même goût que le goût français, que le goût italien. Et par exemple, dans la version américaine, il y a de la cannelle. On n'en met pas chez nous, parce que nous, on n'aime pas trop ça. Il y a de l'oignon et du céleri pour les pays méditerranéens. Et paraît-il, aux Philippines, on prépare avec des bananes, figurez-vous. Donc, il y a plusieurs recettes de ketchup qui sont mises au point en fonction des différentes demandes des marchés locaux.
Bon, alors, comment on fait son ketchup soi-même, Olivier Poul ? C'est la question qu'on se pose tous.
Oui, alors surtout que c'est pas très compliqué et que le ketchup que vous faites à la maison, c'est un vrai ketchup qui ne contient que des produits naturels. Et
pas de sucre, j'espère.
Alors, très peu de sucre, il en faut un tout petit peu, mais c'est vrai que le ketchup industriel contient évidemment des colorants, des conservateurs et énormément de sucre, énormément. Et là, je vous propose un ketchup allégé en quelque sorte. Alors, vous allez prendre 1 kilo de tomates. En ce moment, on n'est pas dans la saison de la tomate fraîche, donc vous allez prendre des tomates pelées. Non, prenez des tomates pelées en boîte, ça marche assez bien. Il y a des tomates de qualité qui sont mises en boîte au moment où elles sont mûres et ça marchera très bien. Une gousse d'ail, un oignon, 10 centilitres de vinaigre de vin blanc, très important, ça c'est pour donner le peps. Juste 50 grammes de sucre, ça va servir à l'arrondir. Une pincée de sel. Alors, une cuillère à café de piment d'Espelette ou, pour mon avis, David Castello-Lopez, on peut mettre du tabasco. Hein, s'il a envie de faire un petit concours de celui qui peut en manger le plus à ce moment-là, bah, c'est parti. Une petite cuillère de moutarde et puis du poivre. Et donc, l'idée, c'est de faire compoter tous ces ingrédients le plus longtemps possible, enfin, le plus longtemps possible, pendant au moins 2 heures, de manière à obtenir cette texture particulière du ketchup, hein, qui peine un peu à sortir de la bouteille. Vous avez tous connu ce moment terrible où vous retournez la bouteille et puis vous frappez son cul pendant des minutes et des minutes pour essayer de gratter le fond du ketchup qui est encore dedans. Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait.
Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je déteste le ketchup. Donc retourner le ketchup et taper son cul, comme vous dites si élégamment, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. Hein.
Voilà, et donc 2 heures de cuisson à petit feu pour concentrer les arômes. Ensuite, on mixe le tout. Et puis on le laisse 2-3 jours au frigo de manière à ce que tout ça s'infuse bien et vous pouvez le consommer sur plusieurs semaines. Vous avez bien un ketchup maison, alors avec des frites ou pas. Et puis si vous n'en voulez pas, ben vous prenez de la mayonnaise.
Voilà, si jamais vous confectionnez cette recette de ketchup, surtout ne nous invitez pas avec Stéphane. Nous n'en mangeons pas, tout simplement. Non. Mais faites-vous plaisir néanmoins, car dans Historiquement Vôtre, on est comme ça, ouvert d'esprit.
Exactement.
Les papilles ouvertes. Merci beaucoup, Olivier Poul.
J'ai appris une chose, ketchup.
On retrouve le ketchup. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Stéphane, est-ce que vous êtes chaud pour le mot de la fin ?
Oh, je suis très très chaud, surtout celles qui ont un Jules, elles sont chaudes.
Elles sont chaudes.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Chaque jour, il nous livre le mot de la fin, l'explication d'une expression qu'on emploie tous les jours ou presque. Aujourd'hui,
pas tous les jours.
Avoir un Jules.
Oui, autrefois on disait avoir un Jules. Allez. Je conjugue au passé parce que ça n'a pas échappé. Aujourd'hui, on doit dire plutôt avoir un cum, non?
Oui, Stéphane, je ne veux pas vous faire de peine, mais même cum, c'est un peu passé de mode. Mais qu'importe. On disait un Jules, ça désignait un amant, un mari, un proxénète aussi dans le langage titi parisien de l'après-guerre. On disait ça parce que le prénom Jules était très à la mode, tout simplement, non?
C'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, Mathieu, les Jules courent les rues. Les 20 premières années du 20e, on compte encore beaucoup de Jules. Et alors que le prénom est totalement tombé en désuétude dans les années 80, on assiste à un retour en grâce ces dernières années. J'ai mené l'enquête, rien à voir avec le chanteur Jules, mais en fait, oui.
Il y en a de plus en plus, ça sert à rien, c'est Bobo, quoi.
Oui.
Sauf que si David avait un enfant, il l'appellerait Jules.
Il l'appellerait Jules,
Gabin.
Ou Gabin.
Gabin ou Léon. Oui, oui.
Ou César. En fait, avoir un Jules est une expression beaucoup plus ancienne.
Ah.
Et voyez-vous, ça vient d'une femme. Eh oui. Marie-Antoinette, ça vous dit quelque chose?
Marie-Antoinette,
l'épouse de Louis XVI. Oui. Elle est encore l'une des plus célèbres de nos reines de France. Fascinante, emblématique de l'histoire de Versailles. Eh bien, l'archiduchesse autrichienne a cristallisé une haine aussi démesurée qu'injuste. On l'a surnommée Madame Déficit, l'Autrichienne. Et les rumeurs les plus folles sont proférées à son encontre. Et parmi ces rumeurs, il y en a une, c'est elle aurait eu une liaison homosexuelle avec sa confidente, Madame de Polignac. Cette dernière, Madame de Polignac, avait un mari, Jules de Polignac.
Oh.
Et quand à la cour, on évoque ce sulfureux potin, pour plus de discrétion, on parle du Jules de la Reine. Les historiens ont depuis reconnu l'improbable véracité de cette liaison. Juste un beau roman d'amitié témoin le passage sur la tombe de Madame de Polignac qui est morte de maladie 50 jours juste après la mort tragique de Marie-Antoinette. Il y est inscrit « morte de douleur ». C'est triste, hein?
C'est triste.
Elle était la Jules, on disait, elle est la
c'est
Jules.
Magnifique.
Parce qu'elle s'appelait la princesse Jules de Polignac, elle était la Jules de la Reine. Mmh.
On
incroyable.
A encore appris des choses avec vous, Stéphane.
Non, mais voilà, en fait, on ne sait pas pourquoi on dit des choses et on les dit quand
et
même.
On comprend tout quand vous les expliquez, c'est ça qui est merveilleux. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, on espère qu'il vous aura donné envie de vous faire botoxer. Il faut soutenir les cliniques de chirurgie esthétique, pour qui ce n'est pas facile en ce moment non plus. Stéphane, est-ce qu'un jour, outre les cheveux, vous ferez refaire autre chose?
Non, le premier rendez-vous que je vais prendre, c'est pour me faire vacciner, si dès que je peux.
Et on l'a bien compris, même avec le vaccin russe, visiblement, vous êtes ouvert.
Vous avez
à tout vaccin.
Écoutez, trouvez-moi
le premier qui arrive,
voilà, exactement.
Je m'y mets.
Oui, je pense que ça sera la première opération que je vais subir.
La plus utile. Demain, on peut l'annoncer, Stéphane, on reçoit mon idole.
Oui, Mathieu, je sais. Jamy Gourmaud.
Et
oui. Vous lui devez votre bac grâce à C'est pas sorcier. Et avec lui, on réunit des personnages de l'histoire qui ont vraiment la science infuse. Isaac Newton, l'homme qui a vu la pomme tomber. Émilie du Châtelet, pionnière des mathématiques qu'on surnommait Madame Pompon Newton, et je vous avais promis qu'on parlerait d'elle un jour, et bien ce jour est arrivé. Et Jamy, dont vous dresserez le portrait, forcément à Michel.
J'ai hâte de l'entendre.
Faut déjà que vous l'écriviez d'ici demain.
C'est pas faux, je m'y mets. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.